Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Quatrième rendez-vous de cette série sur le père Marie-Antoine de Lavaur. Je vous salue sans plus tarder et je vous souhaite un très joyeux Noël, Madame Jacqueline Bailey. C'est Noël aujourd'hui.
C'est Noël aujourd'hui.
Et si on commençait avec le père Marie-Antoine, si on écoutait en ce jour de Noël le père Marie-Antoine de Lavaur.
On voulait parler de la beauté dans la vie sacerdotale. Mais je crois que la beauté, on la trouve d'abord. On la trouve dans la vie de Jésus et donc on la trouve d'abord dans la crèche de Noël. Alors le père Marie-Antoine dit ceci. On l'a dit avec raison. Le beau n'est que la splendeur du vrai. Il n'est par conséquent que la splendeur de Dieu qui seul est vérité. Plus on participe à l'être divin, et plus on participe à sa beauté, à sa splendeur divine. Comprenez maintenant quelle devait être la beauté de Marie Immaculée, de Marie, fille du Père, mère du Fils et épouse du Saint-Esprit. Notre âme a la passion du beau, parce que la passion de Dieu, parce que cette passion du beau est la passion de Dieu. Hélas, pourquoi ne va-t-elle pas le chercher à sa source ? La beauté incarnée, c'est quoi ? C'est Jésus, Jésus dans sa crèche, Jésus de Noël. Et après Jésus, c'est Marie, c'est Joseph. Plus nous aimons Jésus et Marie et Joseph, et plus nous les imitons, plus nous participons à leur beauté céleste. La beauté de nos églises, de notre liturgie, de nos cérémonies vient de Dieu. Elle est donc recréée sans cesse à sa gloire et très naturellement, elle est le bien de tous, ouvert à tous, grand et misérable, par exemple dans nos églises.
Tout à fait. Et ce père Marie-Antoine, on célèbre Noël aujourd'hui, donc c'est le mystère de Noël de la crèche. Il s'est fait pauvre tout petit. Ce père Marie-Antoine vivait comme le plus pauvre de ses frères. C'était bien un capucin. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin avec vous, Madame Bailey ?
Tout à fait. Après la bure de son noviciat, il n'emporta plus jamais une neuve. Il trouve, avec cette excuse qu'il était mal à l'aise dans une bure neuve. Voilà, c'était il avait un aspect vraiment de très pauvre, et puis ses sandales, ses pieds nus, mais là, que tous les capucins ont, mais ça donnait une impression effectivement de pauvreté. Et pourtant, quand il a construit que ce soit la chapelle de son couvent, ou que ce soit la chapelle aux pêches, rien n'a été assez beau. Quand il a construit l'église du couvent qu'il a fondée à Toulouse, on lui a imposé d'abord des plans dressés par un capucin. Mais quelques bienfaiteurs influents ont obtenu que l'église soit confiée à l'architecte le plus en vogue de Toulouse, qui s'appelait Bach, Henri Bach, et qui avait déjà fait l'église de Jésus. Bach a voulu que ce soit un chef-d'œuvre, et puis il y a réussi. Et ensemble, ils ont veillé à ce qu'il y ait plusieurs œuvres contemporaines d'artistes fameux, comme Benjamin Constant, comme le peintre toulousain Bernard Bénazet, le sculpteur lyonnais Joseph Fabiche, vous savez, l'auteur de La Vierge de la Grotte à Lourdes. Œuvres qui, entre parenthèses, ont été vendues aux enchères, comme l'ont été après sa mort en 1907, le couvent et la chapelle. Et on ignore qui furent les acquéreurs de ces œuvres et où elles sont. Alors, le père Marie-Antoine, là aussi, il essayait d'innover pour que les choses soient belles pour Dieu, mais belles aussi pour tous ces gens qui, quelquefois, vivaient dans quelque chose de tristouné, finalement. Et là, il savait qu'il retrouverait, avec la beauté de la prière, la beauté du lieu. Alors, prédication, cérémonie, chant, illumination, rien n'était assez beau, non seulement autour de l'autel et de la chaire, mais il allait les jeter bien plus loin, dans les rues, sur les places, s'entretenant avec tous, s'intéressant à tous. Il créait un climat de charité, de confiance, de piété et de beauté. Il savait se muer, s'il le fallait, en diplomate, en frère mendiant, mais toujours en missionnaire de Dieu. Il essayait d'agir pour le mieux. Et il ne négligeait pas les cantiques. Il n'hésite pas, si l'opportunité se présente, à inviter la musique de l'école de Sorez lors de sa mission depuis Lorraine en 1865, ou la musique d'une escadre de la flotte française à Valoris en 1876, ou la chorale de paroisses voisines pour la consécration de l'église de son couvent en 1861. Et puis alors les enfants jouaient un rôle important dans la préparation des cérémonies. On leur apprenait les cantiques. Et je cite, « Ils mettaient la révolution dans leur famille en réclamant de fabriquer des oriflammes pour la procession. » On pourrait parler de deux ou trois processions que certains témoins ont décrit et qui montrent à quel point le peuple aimait et appréciait le Père Marie-Antoine aussi pour cela. Par exemple, à l'église de l'Immaculée Conception à Bonnefoy à Toulouse, la procession qui a lieu après les vêpes se compose donc d'une foule considérable que les bannières atteignent le pont du canal pendant que le clergé est encore dans l'église. Partout, des tentures et des guirlandes. Pas une maison n'a omis de se parer de cet insigne de fête. On a compté jusqu'à 10 arcs de triomphe dans les rues. Le cortège a fait le tour de la gare. Arrivé au pont du chemin de fer, une riche couronne de fleurs d'or est venue doucement se poser sur le front de la Reine du Ciel. À la tombée de la nuit, tout le faubourg s'illumine splendidement. Trois maisons protestantes se font remarquer par leurs étincelantes décorations. Dans certains quartiers, on a disposé des lumières jusque sur les toits. Toute la nuit, le faubourg de l'Immaculée Conception a offert des hauteurs de la Pujade un magnifique spectacle. Le soir, un très grand nombre de feux de joie sont allumés. Une touchante ovation est faite par les habitants au Père Marie-Antoine et le peuple parcourra les rues au chant des cantiques jusqu'à une heure assez avancée. Imaginons cette scène de liesse, mais toujours avec une ambiance de beauté qui, elle, a demandé beaucoup de travail, des mêmes, d'ailleurs.
C'est un prédicateur, un évangélisateur, il n'a pas peur aussi d'aller dans les rues, hein, à la rencontre des plus pauvres. Et on veut bien s'imaginer, permettez-moi, Jacqueline Bailey, en ce jour de Noël, de se dire que peut-être le bon père, pas Marie-Antoine, serait dans les rues, pourquoi pas, de Toulouse, pour aller à la rencontre de ce que l'on appelle aujourd'hui les sans-abri, les sans-domicile fixe. Est-ce que ça ressemble un peu au père Marie-Antoine ?
Ça ressemble au père Marie-Antoine, mais je pense qu'il trouverait en plus le moyen de les émerveiller. Le moyen de les... Parce qu'en les émerveillant, il les soulève, il les élève vers Dieu, finalement.
Il les emporte.
Voilà, vers Dieu, finalement. Parce que c'est un prêtre et un religieux qui fait ça.
Et qui garde lui-même un regard émerveillé. Il est émerveillé devant le Jésus, enfant de la crèche.
Tout à fait, parce que c'est la crèche de son père, Saint-François. C'est lui qui a le premier imaginé cette crèche. Et c'est la simplicité d'un Dieu venu sur terre si pauvrement qui...
Et vous parlez de pauvreté, il est venu sur terre et à chaque célébration eucharistique dans les mains des prêtres et du Père Marie-Antoine, il descend,
voilà.
Il s'abaisse.
Comme quoi, pauvreté et beauté et richesse, tout se confond quand on a une âme pure.
Eh bien, on parle de ce beau mystère de Noël, et puis ce mystère nous conduit au fond à la pauvreté de ce mystère, hein, dans cette crèche, mais aussi toute cette splendeur, hein, cette beauté, hein, l'enfant Dieu qui nous est donné et qui est donné pour le monde, pour les âmes. Merci de votre intervention aujourd'hui, Jacqueline Baillet, et puis on vous retrouve, et ça sera donc un dernier rendez-vous avec vous, et vous nous amenez aussi le bon père Marie-Antoine. Permettez-moi de l'appeler bon père Marie-Antoine de Lavaure.
Oh, merci Nathalie.
À demain.